L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sourdrille.
Bonjour, je suis conscient que j'attaque un sujet extrêmement délicat, le jugement de Dieu sur son peuple alors que son peuple est encore vivant. Alors c'est vrai qu'il y a une différence entre la correction de Dieu et le jugement de Dieu, mais il est vrai également que on peut être corrigé par le Seigneur, mais Dieu peut également juger quelqu'un qui faisait partie de son peuple ici sur la terre. Après la mort vient le jugement. Mais avant qu'on meure, si quelqu'un commence à s'écarter un peu, si on fait des erreurs, Dieu nous corrige, il nous instruit, il va nous enseigner, il va nous éviter de faire du mal. Donc la correction va arriver. Cette correction, on le sait, va nous amener dans la tristesse. Mais quand on aura été ainsi exercé, ça va produire des paisibles fruits de justice. Donc ça produira du fruit si on a un cœur qui est bon, un cœur qui choisit de marcher dans l'humilité. Mais si on refuse de marcher dans cette humilité, si on refuse la correction de Dieu et qu'on persévère dans le mal, qu'on continue à faire le mal, il est possible à un moment de vivre le jugement de Dieu. Alors je veux en parler avec équilibre et on va voir ensemble quelques jugements qui peuvent venir sur ceux qui refusent de se soumettre au Seigneur. Et je partage aujourd'hui un chapitre du premier livre que le Seigneur m'a appelé à écrire, Walk in Love 1. Et cette semaine sont sortis les deux nouveaux livres, Walk in Love 2 et Walk in Love 3. Et avant de pouvoir répondre à cette question sur comment Dieu juge son peuple, je vous invite à découvrir ces trois livres. Il y a quelques années, une personne de mon entourage avait mal agi envers quelqu'un et j'avais pris la décision de la reprendre avec sévérité, même si cela pouvait nuire à notre relation. Mais une nuit, Dieu m'a montré que ma réaction n'était pas celle qu'il attendait, puis j'ai entendu audiblement ces trois mots « Walk in Love ». La révolution Walk in Love était née. Dans Walk in Love 1, nous avons démasqué les ennemis invisibles qui empêchent d'entrer dans la volonté de Dieu, l'orgueil et la rébellion. J'ai alors partagé avec vous quel était le meilleur ami de notre destinée et comment entrer dans ce que j'ai appelé la révolution Walk in Love, une révolution qui nous introduit sans détour et avec succès au cœur de notre appel. Les deux nouveaux livres, Walk in Love 2 et Walk in Love 3, ont pour but de fortifier le cœur des leaders spirituels et de toutes les personnes qui sont appelées à aider les autres. Nous avons tous aidé un jour un ami, une sœur, un frère, et avons parfois fait face à des défis relationnels. Pourtant, nous oublions parfois qu'à l'image de Jésus, nous serons un jour incompris et rejetés, et que les relations fraternelles peuvent engendrer dans le cœur de celui qui veut aider les autres des souffrances cachées et des blessures profondes. À travers Walk in Love 2, je vous montrerai comment réagir aux injustices, éviter les erreurs courantes du ministère et persévérer dans l'amour. Je partagerai 9 erreurs commises par les pasteurs qui poussent les croyants à chuter. Ce livre sera pour tous un encouragement à s'appuyer sur Dieu avec fermeté au sein de l'adversité. Walk in Love 3 est le livre qui met à la lumière les coulisses d'une trahison. À travers la vie du roi David, nous découvrirons 25 types de personnes qu'on trouve au sein d'une église ou d'une division. Walk in Love 3 est une passionnante révélation que tout leader devrait découvrir. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Soyons certains d'avoir l'attitude qui convient à son retour et n'oublions pas que la miséricorde triomphe du jugement. Des milliers de personnes ont aimé et chanté le chant Walk in Love. C'est maintenant le temps de le vivre. Walk in Love, c'est maintenant. Alors vous pourrez trouver donc ces livres sur walkinlove.fr et la bonne nouvelle c'est que où que vous soyez dans le monde, également pour mes frères et sœurs en Afrique, j'ai fait expédier des livres là-bas afin que vous puissiez les avoir directement sur place. Vous pouvez aller sur walkinlove, vous allez voir un bouton « Je suis en Afrique ». Et alors, vous pourrez commander avec les moyens des paiements locaux et les livres partiront depuis l'Afrique vers l'Afrique. Alors, cette question, comment Dieu juge son peuple? Et avant de pouvoir y répondre précisément, avant de tomber dans ce jugement ou de vivre ce jugement, bien sûr, Dieu ne veut pas nous juger. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour juger le monde, on le sait, mais pour que le monde soit sauvé. Et il est écrit que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de voie et qu'ils vivent. Alors nous étions méchants, Dieu par sa grâce a envoyé Jésus-Christ et on a été sauvés. Maintenant on peut s'éloigner de Dieu et on peut même continuer à aller à l'église, continuer à prier, continuer à lire la Bible, mais avoir dans notre cœur de la rébellion, avoir dans notre cœur de la colère, de la haine contre quelqu'un et avoir dans nos vies des sentiments qui sont mauvais et également des péchés et dans lesquels nous vivons encore et encore. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie d'une personne qui choisit de faire le mal? La première chose, c'est la stagnation. Une personne qui continue dans le péché, qui vit dans le péché, qui vit n'importe comment, ou qui a un péché récurrent encore et encore, cette personne, premièrement, elle va stagner dans sa vie spirituelle. Dieu l'appelait à aller vers le haut, Dieu l'appelait à porter du fruit, à vivre beaucoup de choses avec lui, mais cette personne, au lieu de grandir, elle va stagner spirituellement et elle ne fera pas de progrès. Et la parole de Dieu en parle, parlant de certaines personnes en disant qu'ils n'iront pas plus loin. Quand on continue et on persévère dans le mal, on n'ira pas plus loin. Et parfois, certains parents ont par exemple choisi de marcher dans la rébellion. Ils parlent mal contre les autorités spirituelles, ils parlent mal des frères, ils parlent mal des pasteurs. Et ils s'imaginent que Dieu est comme eux, et Dieu en parlera très clairement dans l'Ancien Testament. Il dira « Mais tu t'es imaginé que j'étais comme toi ?» À toi qui critiques le fils de ta mère, etc. Mais je vais te montrer ton péché et je vais tout mettre devant tes yeux. Et j'ai vu plusieurs parents comme ça qui critiquaient les autorités spirituelles et qui ont amené une malédiction dans non seulement leur vie personnelle en tant qu'individu, mais également chez leurs propres enfants. Ils ont, comme Ève, a donné du fruit à Adam, ils ont transmis le fruit de la rébellion, le fruit de l'éloignement, le fruit de la division, le fruit du péché à leurs enfants qui, quelque part, ont été maudits ou en tout cas sont rentrés dans une sorte de malédiction, mais pas à cause de Dieu, à cause d'eux-mêmes. Donc, la première étape, c'est qu'on va stagner. La deuxième étape, c'est qu'on va se refroidir. Les personnes qui refusent d'obéir à Dieu et qui persévèrent dans le péché sont des personnes qui vont se refroidir spirituellement. Donc, au bout d'un moment, ces personnes stagnent, mais ensuite, ça commence à descendre et se refroidir. Et c'est des personnes qui ne vivent plus grand-chose avec Dieu. Alors, des fois, elles se posent la question, mais pourquoi? Ou parfois, simplement, elles s'endorment tranquillement, comme ça, comme quelqu'un où on peut lui mettre, vous savez, il y a de l'air comme ça et vous pouvez vous endormir tranquillement. Ou alors, on peut vous piquer parce que vous allez vous faire opérer. Et là, bon, c'est plus rapide en général et vous endormez rapidement. Eh bien, ces personnes s'endorment spirituellement sans réaliser le pourquoi, souvent. Et elles ne vivent plus rien avec le Seigneur. Et ces temps qu'elles vivaient où c'était merveilleux avec Dieu, quand elles ont rencontré le Seigneur, ces temps de la présence de Dieu, eh bien, ça devient de plus en plus rare et parfois même inexistant. Et au bout d'un moment, la troisième étape de cette déchéance spirituelle, c'est la confusion. Ces personnes sont complètement confuses et elles peuvent s'ouvrir même à des esprits de séduction qui vont les amener loin de ce que le Seigneur avait prévu pour elles. Ce sont des gens qui peuvent rester dans l'Église, mais elles sont omnibulées, oppressées, habitées par des esprits de séduction qui les amènent dans une complète confusion. Ces gens sont complètement confus. Alors maintenant, on va voir ensemble quels sont les jugements qu'ils peuvent venir, pour ne pas dire s'abattre, sur ceux qui marchaient avec Dieu, mais qui ont refusé la miséricorde, l'amour, le pardon, la sanctification. Je vais parler et partager avec vous 6 exemples. Alors le premier de ces exemples, c'est l'abaissement. Il est écrit, en effet, c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il est aussi écrit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Alors, qu'on en soit conscient ou pas, la rébellion est un fruit de l'orgueil et cet orgueil elle amènera la chute. Et la chute que peut subir une personne rebelle peut être d'ordre spirituel, social, intellectuel, familial, financière, etc. Et qu'est-ce que Dieu va faire lorsqu'il y a un jugement que Dieu établit? Et qu'est-ce que c'est le jugement de Dieu quelque part? C'est Dieu qui enlève son manteau de protection dans la vie d'une personne. Le but de Dieu, c'est que cette personne, après avoir été corrigée, ou après qu'il y ait un jugement, ici je parle d'un jugement, on va dire, au premier degré, cette personne puisse se repentir, revenir à elle-même comme le fils prodigue et retourner auprès du Père. Et comme je l'ai dit, si cette personne refuse de se repentir, eh bien, il va arriver certains jugements dont je vais parler un peu plus loin. Alors, il peut y avoir des abaissements financiers. Personnellement, je l'ai vécu. À un moment, nous avions déménagé, je vous en ai certainement déjà parlé si vous écoutez les émissions régulièrement, et il y a maintenant à peu près 15 ans, on avait déménagé sans vraiment demander au Seigneur ce qu'il en pensait. Et on s'est retrouvé dans des galères pendant un an parce qu'on était parti d'un endroit de bénédiction où Dieu nous avait donné une maison, on était là gratuitement. Et finalement, pour se rapprocher de là où on travaillait, pour le ministère Enseigne-moi à l'époque, eh bien, on s'est rapproché et on a commencé à vivre un abaissement financier. Qu'est-ce que Dieu voulait? Le Seigneur voulait me faire tilt. Il voulait que je comprenne. Mais des fois, on est tellement en train de foncer qu'on ne réalise pas ce que Dieu voulait nous dire. Alors, au bout d'un an, pour faire très court, j'avais dit, mais il suffirait plus que je tombe malade et je serais le deuxième Job. J'avais plus de voiture, j'avais plus d'argent, j'avais plus de salaire. On avait quitté la maison qu'on louait très cher d'ailleurs. Tous nos revenus allaient là-dedans. Et je m'étais dit, voilà, la seule chose qui manque maintenant, c'est que je sois malade et je serai le deuxième Job. Et finalement, eh bien, j'ai attrapé une insolation un jour et en revenant d'un mariage, là, le Seigneur a commencé à me parler et j'étais horrible, j'étais très très mal. J'avais envie qu'on me laisse sur le bord de la route. Et ce soir-là, il s'est passé quelque chose dans mon cœur et j'ai commencé à me dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai commencé à me repentir. Et le lendemain soir, j'ai fait un songe et le Seigneur m'a montré la maison qu'on avait abandonnée, la personne qui l'habitait, laissé faire ses valises et finalement, avec la repentance, notre situation a été rétablie. Alors, c'est un parmi tellement d'exemples qui peuvent avoir d'abaissement. Il peut y avoir un abaissement au niveau financier, mais ça peut toucher plusieurs domaines dans notre vie. Le deuxième jugement qu'il peut avoir, on aurait pu parler de Nebuchadnezzar qui, lui, s'est glorifié. Il a dit « Ah, c'est moi qui ai bâti ce palais, cette nation. » Et à un moment, il a entendu une voix. « Voilà, tu vas devenir comme un animal, et tu vas manger comme un animal et tes cheveux vont pousser, les ongles comme un animal. » Et il a été abaissé jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu est Dieu et qu'il n'y en a qu'un qui soit comme lui. Et son fils, malheureusement, lui aussi a été abaissé. Il a vu cette main écrire sur le mur et il a dit « Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Cette nuit même, il fut tué. » Ça peut être un abaissement. Et ici, il y a aussi le jugement qui amène la personne à mourir. Deuxième, c'est être livré à Satan. Ça, c'est un jugement qui peut être émis. Alors, on ne peut pas aller trop loin et dire n'importe quoi par rapport à ce sujet-là. Donc, on va en parler d'une manière équilibrée. Et l'apôtre Paul parle d'un homme qui entretenait une relation amoureuse avec la femme de son père et il a livré cette personne à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, pour ne pas être condamné à toujours, il arrive donc que Dieu enlève son manteau de protection en ayant inspiré un homme de Dieu. Bien sûr, je ne parle pas ici de sorcellerie ou des gens qui font n'importe quoi de leur autorité spirituelle. L'autorité spirituelle est là pour le bien. Romains 13 nous le dit clairement. Et Dieu dit, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi et je vous livre entre les mains de Shishak, cet homme. Et il est écrit encore, il les a livrés au pouvoir des nations, ceux qui les détestaient ont dominé sur eux. Alors, parfois, lorsque nous allons trop loin dans le péché et la rébellion envers Dieu, la mort est le meilleur cadeau qui puisse nous être offert, puisque nous refusons la grâce. La mort est pour plusieurs le moyen que Dieu permet afin qu'ils ne soient pas condamnés à toujours. Alors la chair meurt, mais l'esprit est sauvé comme par le feu. Bien sûr, Dieu ne veut pas qu'on soit livré à Satan, et une nouvelle fois, Dieu ne veut pas qu'on soit abaissé ou jugé d'une manière ou d'une autre. Mais cela arrive. Et troisièmement, les accidents. Alors il est écrit, c'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boira de la coupe du Seigneur de manière indigne se rendrait coupable envers ce corps et ce sang. Que chacun donc s'examine soi-même Et alors qu'ils mangent de ce pain et boivent de cette coupe. Parce que celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison, et ça c'est sûr, en lisant ça aussi, vous êtes questionné comme moi, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup, frères et sœurs, beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont quoi ? Morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Alors Paul va nous parler de trois conséquences suite à un jugement divin. La maladie, l'infirmité, donc ça peut être les accidents, et la mort. Quand Paul parle de discernement ici, il n'est pas en train de dire voilà, qu'il faut simplement comprendre le pain, etc., être bien enseigné, mais simplement il nous dit « vous ne pouvez pas vivre n'importe comment ». Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un enfant de Dieu et prendre la Sainte Cène, la communion et venir à l'église comme si rien n'était, comme si vous étiez un bon enfant de Dieu et vivre n'importe comment. Parce que vous allez ouvrir des portes à Satan, le manteau de Dieu va s'enlever et là vous allez vivre des choses que vous n'auriez pas dû vivre et ça peut amener certaines personnes à l'infirmité. Il y a un groupe de chrétiens qui s'est soulevé un jour contre leur pasteur. L'un d'eux est en train de conduire sa voiture, il est tombé en panne et il s'est arrêté sur le bord de la route. Il est sorti de son véhicule, il a été fauché par une voiture qui l'a traîné sur une très longue distance. Il s'est retrouvé à l'hôpital et il est mort. Ce sont des choses terribles et parfois on se demande quelles sont les raisons. La mort engendrée par un jugement divin a souvent l'air d'une circonstance tout à fait naturelle. Les pompiers, les médecins, les ambulanciers ou les témoins de la scène n'auraient pas pu dire qu'il s'agissait d'une situation surnaturelle, mais en réalité, il s'agit bien d'un événement surnaturel suite à un jugement divin et d'une porte à l'ennemi. On pourrait prendre des exemples encore et encore dans l'Ancien Testament. On pourrait parler d'Ananias et de Saphira. Et on pourrait aussi parler de ceux qui se sont retrouvés avec les lions et qui, parce qu'ils ne marchaient pas dans la rébellion, ils marchaient avec la crainte de Dieu, ont été épargnés. Alors, les accidents peuvent arriver à des personnes qui rétrogradent, donc qui ont stagné, se sont refroidis, sont tombés dans une sorte de confusion spirituelle, une vie spirituelle où ils ne portent pas de fruits, et par le péché, la rébellion, etc., la rébellion est un péché, et il y a des accidents qui peuvent prendre plusieurs formes, comme tomber dans des escaliers, dans une rue ou dans un magasin, se couper un doigt avec un appareil, être brûlé, être percuté par une lourde charge, électrique ou non, subir un accident du travail, faire une crise cardiaque, un AVC. Dieu veut absolument nous préserver de ces choses. Mais il y a tant d'exemples de personnes qui ont eu ce genre d'accident parce qu'en fait, quelque chose n'allait pas dans leur vie. Elles ont ouvert des portes à Satan en marchant comme il voulait qu'il marche, dans la haine, la colère, la critique, la rébellion envers des autorités spirituelles, etc. Quatrième jugement, c'est la maladie. Il est écrit, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Alors, on devrait normalement trouver la guérison. L'apôtre dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui soit malade ? Dieu veut guérir tout le monde. Et bien entendu, ce ne sont pas tous les malades, il faut le dire, qu'ils sont devenus suite à un jugement. Pas du tout. Il y a des malades de maladies naturelles, des choses complètement naturelles. Il y a des choses aussi où les personnes ont fait un peu n'importe quoi avec leur corps. Il y a aussi des attaques sataniques. Et il y a aussi des portes qui ont été ouvertes par le péché. Et donc, il est vraiment important pour ne pas arriver à tomber malade, à faire attention à nos cœurs. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Il est écrit dans le Nombre, « Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. » Lorsque la main de Dieu se retire de quelqu'un, on expérimente ce texte. « Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. » Et on peut arriver à un point où, comme Judas, Satan entra en lui. Un ami pasteur me raconta qu'un de ses fils spirituels s'était rebellé contre lui. L'homme est devenu fou. Il s'est adonné à l'alcool. Il a mis enceinte une femme hors mariage. Et au bout de 9 ans, il s'est repenti. Il a été restauré par le Seigneur. Il a été pardonné par le pasteur. Et il est devenu son pasteur assistant. Il y a tellement d'exemples. Un jour, Un pasteur était en voyage et il s'est réveillé malade. Il n'avait pas été malade ainsi depuis des années. Il s'est senti humilié dans son cœur et son cœur s'est éveillé à la correction. Il a dit, « Mais Seigneur, est-ce que tu veux me dire quelque chose ?» Aussitôt, il a compris qu'il avait pris plusieurs décisions dans son ministère sans réellement consulter Dieu. Dieu lui a ouvert les yeux, il s'est repenti et avant la fin de la journée, il fut relevé. La mort prématurée peut arriver. Il y a des exemples dans la parole qui peuvent arriver. Donc, Ananias et Saphira, Dieu dit, « Ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à ceux qui sont loin. » Je parle et je donne plusieurs exemples. Et là encore, Dieu veut nous épargner. Sixièmement, et on va prier, la perte des récompenses au tribunal de Christ. Ça, c'est un jugement qui va se passer cette fois-ci après notre mort. Je donne cet exemple. Dans notre cœur, on a un enregistreur. Tout est filmé en vidéo et tout est enregistré. Toutes nos paroles, toutes nos actions, on va les retrouver et Dieu les présentera. Chacun aura à rendre compte pour lui-même. On doit s'interdire de faire le mal. On doit choisir l'amour et l'humilité. Si la puissante main de Dieu commence à venir sur nous, on doit s'humilier, se repentir et être touché, être guéri, être transformé par le Seigneur. Il est vraiment important de marcher dans l'humilité, dans l'amour et dans le pardon. Dans une église d'un ami pasteur, en parlant de la mort prématurée, 26 personnes se soulevèrent contre son ministère et causèrent une division. Dans les 2 ans qui suivirent, c'est un homme, c'est un blanc, hein, 13 d'entre elles, la plupart étaient très jeunes, moururent de morts étranges à travers des maladies, des accidents domestiques ou de la route, et ceci de façon parfois très violente. Un autre mourut un peu plus tard. Et ça, un grand nombre de pasteurs peuvent malheureusement raconter ce genre de triste expérience. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de voie et qu'il vive. Alors, je n'ai pas pu partager dans les détails et enseigner vraiment sur le sujet, mais plus donner quelques indications en disant oui, il y a une correction de Dieu, il veut nous pousser à la repentance et au changement. Dieu ne veut pas nous amener à un jugement, Christ a été jugé pour nous, et si nous faisons n'importe quoi, si nous ne faisons pas attention, il peut avoir des jugements. Avant cela, on va stagner, se refroidir et même arriver à la confusion, ouvrir nos vies et notre cœur à des esprits de séduction même et tomber dans des travers et des choses très bizarres que même j'ai pu voir dans la vie des personnes qui étaient autour de moi. Et il peut aussi arriver à un jugement et par ces jugements, le Seigneur nous corrige. Ce n'est pas Dieu qui nous amène à avoir un accident de voiture, ce n'est pas Dieu qui va nous amener une maladie parce qu'il n'en a pas au ciel, comme on dit, mais il va enlever son manteau de protection. Et là, il peut arriver n'importe quoi. Dieu nous protégera, Dieu posera sa main d'une certaine façon. Mais si aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu vis n'importe comment, tu vis dans une rébellion contre les autorités, ça peut être des parents, ça peut être des autorités spirituelles, ça peut être Dieu. Si tu demeures dans le péché et Dieu t'a averti encore et encore, mais ton cœur est rempli de péché, de haine, le Seigneur ne veut pas nous faire peur, le Seigneur veut juste qu'on se repente. Et je voudrais te laisser aujourd'hui la possibilité de pouvoir te repentir et demander pardon à Dieu. Pas parce que tu as la peur de mourir, Dieu nous a libérés de la crainte de mourir, mais c'est vrai, il y a un jugement qui peut s'abattre sur toi. Peut-être même tu as vécu cela, tu as eu un accident, et tu sais que c'est parce que tu t'es éloigné de Dieu, parce que tu es devenu rétrograde, parce que tu as complètement délaissé le Seigneur, parce que tu as fait n'importe quoi. Mais aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas que tu meures, tu es en vie, gloire à Dieu, le Seigneur veut te rétablir. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu va guérir plusieurs personnes qui avaient ouvert une porte, des portes, et qui sont tombées malades. Et Dieu veut guérir et Dieu veut libérer. Si c'est toi, tu entends ma voix et tu sais parce que le Saint-Esprit te montre que c'est toi. Tu sais que quelque chose ne va pas. Peut-être ça n'a pas été jusqu'à un accident. Peut-être tu n'es pas tombé malade, mais tu es sec. Tu t'es complètement refroidi parce qu'un jour, tu as parlé mal. Un jour, tu as insulté. Un jour, tu as dépassé les limites, comme cet homme dans l'Ancien Testament, à un moment qui a parlé contre les sacrificateurs et la lèpre a commencé à toucher son front. Il est resté lépreux jusqu'à la fin de sa vie. Dieu ne veut pas que tu sois lépreux jusqu'à la fin de ta vie, mais Dieu veut comme Myriam que tu puisses être guéri. Si tu as commencé à boiter, au lieu que tes os se dévient encore, Dieu veut te guérir. Alors si tu entends ma voix aujourd'hui, tu peux répéter après moi cette prière. Dieu, je te demande pardon pour mon péché. Et tu peux citer ce péché là où tu es. Père, pardonne-moi. Écarte de ma vie le mal, le jugement. Corrige-moi dans ton amour pour mon bien. Ouvre mes yeux et permets-moi de comprendre, de voir sur quelle voie je suis en train d'aller. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je voudrais que tu puisses prier avec tes mots maintenant. Encore te repentir, demander pardon au Seigneur. Je vais ouvrir ce temps de prière, te laisser seul avec Dieu. Seigneur, merci pour la repentance. Merci pour la restauration. Merci pour le pardon. Merci pour les réconciliations. Pose ta main, Seigneur. Si quelqu'un était malade, Seigneur, parce qu'il a ouvert une porte à l'ennemi, par sa bouche, par ses gestes, et qu'aujourd'hui il se repent, je prie, Père, j'appelle la guérison, qu'elle germe promptement au nom de Jésus-Christ. Père, je prie, si quelqu'un s'éloigne de toi, a commencé à vivre comme un païen, quelqu'un qui ne te connaît pas, je prie qu'il y ait un changement, une restauration. Tu dis dans ta parole, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Père, merci pour la vie. Merci Seigneur. Il y a une solution, c'est la repentance. Et je prie que vous puissiez vraiment profondément, si ce n'est pas encore fait, vous repentir. Je crois que le Seigneur va vous restaurer. Au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction du Seigneur soit avec vous alors que vous choisissez de marcher dans l'obéissance. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Prière Inspirée sur emcitv.com.